À propos du 1,5 milliard d'euros que le gouvernement va dépenser pour la grippe A, le professeur Gentilini, qui est un grand spécialiste, aussi modéré que compétent, a parlé de pandémie de l'indécence. Après avoir écouté Mme Bachelot hier soir, interrogée par deux journalistes totalement invertébrés, je ne sais plus si certains de ses propos relèvent de l'indécence ou d'un culot monstrueux. Elle a osé prétendre ceci. Le point qui me hante, c'est les inégalités sociales en matière de santé. J'ai proposé une stratégie globale de protection par la vaccination de masse, sinon c'était encore les pauvres qui échapperaient à cette mesure. Elle ose dire cela, alors que nous sommes une forte majorité d'infirmières et de médecins à refuser ce vaccin. Alors que les personnes qui savent chercher sur Internet apprennent très facilement que cette grippe, qui sévit maintenant depuis 6 mois dans le monde, est une grippe banale, donc sans indication médicale de vaccination pour la grande majorité d'entre nous. Alors que les vaccins qui s'annoncent sont tous différents, secrets de fabrication obligent, qu'ils sont bâclés, donc dangereux, et que plus de 10 labos mondiaux se tirent la bourre pour arriver les premiers au mépris de toutes les précautions habituelles. Et sur RTL, la veille, elle déclarait, comble de cynisme, qu'elle allait demander à ces mêmes labos de faire de la pédagogie auprès du public sur l'innocuité de leur propre vaccin. Les pauvres, comme elle dit, ne méritent vraiment pas cela.
C'est Nordine d'Aubervilliers, là. Le gars d'aujourd'hui, faut l'appeler tous les jours. Tous les jours.
Salut à toutes et à tous, c'est Joël. Par rapport à l'émission de ce mercredi, donc, deux choses, moi, qui m'ont un petit peu laissé un peu sur ma faim par rapport à l'intervention de Frédéric Lordon. Premièrement, quand il parle des gens qui n'ont pas été votés ou qui se sont abstenus lors des dernières élections européennes, en disant que les gens ne se mobilisaient pas. Je crois qu'au contraire, puisqu'aujourd'hui, si on en est là, c'est aussi en ayant donné un pouvoir électoral à certains élus qu'on en est aussi là, avec l'aide des banquiers, bien sûr, mais il leur fallait aussi, j'allais dire, une courroie de transmission. Et la deuxième chose, c'est sur la croissance. Et malheureusement, Monsieur Lordon, vous n'avez pas échappé à ça, à cette espèce de totem de la croissance. Et je crois que si on ne sort pas de ça, effectivement, on n'en verra pas le bout, quoi. Parce que on sait très bien que, et on le voit bien, ça a un impact sur l'environnement aussi, car plus de croissance, ça veut dire plus de destruction aussi de l'environnement. Et aussi de l'être humain, parce que les deux ne sont pas isolés. Donc je crois qu'il y a aussi une chose, mais peut-être que vous en parlerez dans la prochaine émission, c'est aussi la fin du crédit. Là, on est en train d'essayer de relancer la machine avec le crédit, c'est-à-dire il faut que les entreprises prennent des crédits, il faudrait que les ménages aussi s'endettent. Moi, je voudrais rappeler quand même que le crédit, c'est du vol, parce que le crédit, c'est de l'argent qu'on prête avec de l'argent qu'on prend en plus. Donc moi je ne comprends pas effectivement qu'on encourage ce genre de choses, voilà. Donc il y a ces deux choses, la croissance et puis le crédit, quoi, qui pour moi sont des vols, voilà. Mais comme l'ensemble du capitalisme d'ailleurs. Voilà, bonne journée.
Ouais, salut, donc c'est pour revenir sur l'émission d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça très bien comme analyse et je pense que c'est vrai. Et moi, par exemple, en tant que citoyen normal, je vois que je m'endette et j'arrête pas de m'endetter. Voilà, je prends des crédits, j'en ai 3. Et c'est un cercle vicieux, voilà, et je vois que ça... voilà, et je me dis qu'un jour, quand on veut tout avoir, quand on a des passions, quand on veut aller au cinéma, quand on veut faire de la culture et tout ça, on est obligé de s'endetter. Et je pense qu'un jour, il y aura comme la crise de 29, quoi. Hein, les gens ne pourront plus rembourser. Car en plus, c'est un autre phénomène, c'est que les gens qui sont au chômage, quand ils retrouvent un taf, ils sont payés au SMIC. Peu importe leur expérience, tout ça, et ça, c'est bâtard, quoi. Et je veux dire aussi, c'est comment ils vont rembourser les dettes, la France, si tout le monde est au SMIC. Hein. Moi, je dis un truc, la clé, c'est le salaire. Voilà, tout le monde en augmentation générale, et ça se passera un petit peu mieux en France.
Salut, Mermet. Simplement, ton auditeur, ton conférencier actuel qui nous fait le coût de la consommation, faut bien payer les gens. Rappelle-lui qu'on n'est plus au temps de Ford. Effectivement, les ouvriers à l'époque, ils achetaient tous des Ford, donc tu donnais 100 et tu récupérais 100, si j'ose dire. Aujourd'hui, tu donnes 100, mais hélas, ils achètent à 80% des produits étrangers. Hein, et encore 80% pour ce qui est des biens de consommation, on est presque à 85%, hein, je ne parle pas de service. Donc quand tu donnes 100, tu récupères 15 et tu files en gros 50 aux Chinois. Voilà. Donc ça n'a strictement plus rien à voir. Donc faut qu'il arrête de fonctionner sur des modèles qui ont vécu et qui n'ont plus aucun sens là. Hein, voilà. Qui dit des choses nouvelles un petit peu. Il doit avoir quelque chose à dire, ce brave homme. Voilà. Et concernant Total, on rappelle tout de même, hein, il n'y a eu aucun licenciement. Aucun. Simplement des non-renouvellements de postes, parce que l'intox a été grande encore là. Hein. Licenciement. Je rappelle que Total est le plus gros employeur en France et qu'il n'a pas fait un seul licenciement. Voilà, à bientôt.
Salut Daniel, c'est Fabienne, agricultrice en Margeride. Alors la Margeride, c'est en Haute-Loire, en plein cœur d'Auvergne. Tu vois, je viens de remplir les bidons de lait, là, et puis je vais aller au marché, et puis je vais le donner. Moi, j'ai pas eu le cœur d'ouvrir la peine du tank encore. Je sais qu'il y a des collègues qui le font, je leur tire mon chapeau, parce que faut avoir du cran pour se lever le matin, faire la traite et ouvrir la vanne ensuite. Voilà, je suis paysanne. Je dis paysanne parce que c'est important pour moi. Je suis paysanne et je suis en colère et je suis fatiguée. Je fais partie de l'APLI, l'Association des producteurs laitiers indépendants. Et il faut qu'on en parle plus que ça. Il faut que des vérités se disent beaucoup plus que ce qu'on entend à la radio, à la télé, etc. On attend le soutien des consommateurs, parce que c'est aussi pour eux qu'on fait ça. Et on attend ton soutien, bien sûr, mais je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. On y va avec deux collègues, on va porter notre lait. Et franchement, mesdames, messieurs, si vous avez une ferme à côté de chez vous, un paysan, un producteur de lait, allez-y, allez-y. Soutenez-nous, on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Merci Daniel.
Merci à tous. Pour ces messages, laissez dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Merci, cher AMG. Aujourd'hui, deuxième partie, Frédéric Lordon, économiste, je le rappelle, celui que nous appelons, entre guillemets, le professeur Lordon, qui depuis hier est toujours directeur de recherche au CNRS. J'espère qu'il n'a pas été viré pour l'émission qu'il a fait hier. Et c'est un... Il exerce ses recherches et ses travaux portent sur le capitalisme financiarisé. Et, mais pas seulement, hein, je le rappelle, Lordon, dans ses ouvrages, dans ses interventions, que certains auditeurs trouvent trop rares, eh bien écoutez là-bas si j'y suis, ce sera moins rare, fait des propositions. Fait des propositions qui méritent évidemment débat, mais il ne se contente pas d'analyser et de déplorer, mais aussi il fait un certain nombre de propositions. Donc hier, première partie sur les analyses de cette, une analyse de cette crise financière. Qui s'en sort? Il y en a un certain nombre qui s'en sortent pas mal du tout, hein, qui sont d'ailleurs ceux qui sont les instigateurs, les responsables de cette crise, sont ceux qui s'en sortent le mieux, et on verra que certains s'en sortent beaucoup moins bien, puisqu'on en est à 640 000 chômeurs de plus depuis le début de cette année, et que les chiffres qui vont être annoncés dans les heures qui viennent, avec tous les maquillages connus sur ces chiffres, doivent être assez désastreux, puisque ça doit être une augmentation de 40 000 demandeurs d'emploi en plus. Donc voilà, beaucoup pleurent et quelques-uns rigolent, mais heureusement, s'ouvre le G20, et là, vraiment, on va prendre le taureau du capitalisme par les cornes, le mettre à terre, et l'égalité, la sérénité devrait intervenir très rapidement. Mais d'ici là, il est peut-être utile d'écouter ensemble ce deuxième volet du professeur Lordon, de Frédéric Lordon, du bon côté du doigt. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Eh bien, il y a quelques jours, Daniel Mermet et son équipe, là, vous avez bien craché sur Bernard Thibault et la CGT.
ça me fait un peu drôle, ça. Moi, c'est pas pour passer à l'oreille à votre émission, mais c'est simplement pour qu'ils le sachent. Parce que, bon, c'est un peu dommage. Je pense pas que Daniel Mermet et son équipe puissent défendre les travailleurs autant que ce que le fait la CGT. Voilà, c'est tout. Au revoir. Ça me décourage un petit peu de vous écouter, mais globalement, vous êtes, je pense, encore bien. Au revoir. Ciao.
Ouais, salut Daniel, salut les auditeurs. Sylvain, là, je suis routier. C'est pour parler de la taxe carbone. Tu vois, cet après-midi, je vidais dans une base logistique à Gretz-Armainvilliers. Là, on amène du papier toilette depuis des années, depuis Nancy. On fait 280 km pour amener le papier toilette. Et puis, tu vois, aujourd'hui, il y avait un Slovaque qui amenait du papier toilette d'Italie qui avait fait 800 km. Donc, tu vois, le même papier toilette, maintenant, il va faire 800 km. Donc, il va faire beaucoup plus il va produire beaucoup plus de CO2, tout. Donc, la taxe carbone, tu vois, les patrons, les industriels, tout le monde s'en fout, quoi. Donc, tu vois, la seule façon de changer le monde, c'est de taxer les transports, quoi. Moi, je suis routier, mais bon, je veux dire, je peux changer de métier, quoi. Mais la seule façon de faire évoluer tout ça, ce serait de taxer les transports, mais les taxer énormément. Il faudrait qu'ils coûtent 10 fois plus cher qu'aujourd'hui, parce qu'on s'en sortira jamais, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Salut à tous. Ben, c'est pour vous annoncer que le repère de Tourette de Montauroux aux Estérés du Lac se tiendra demain soir à partir de 19h à la boutique Notre Monde. Et puis faire un gros bisou aux Marseillais, parce que hier soir on est descendu à Marseille au repère où il faisait une petite fête particulière pour les 20 ans de la Vassie J'y suis, et c'était bien sympa, on s'est régalé. En plus ils organisent une choucroute garnie, pour ceux qui connaissent pas, vous tapez choucroute garnie sur internet. Allez, ciao viva, portez-vous bien, ils ont des surprises pour toi Daniel, ciao ciao.
Cher AMG, bonjour, c'est le repère de Mornan. Nous sommes repartis pour une nouvelle saison et pour bien démarrer la saison. On vous invite au cinéma salle Jean Carmet ce 25 septembre, vendredi. Nous allons diffuser le film Chomsky et compagnie. Et cette soirée sera animée par Vincent Chenet du journal La Décroissance. Venez nombreux, on vous attend pour démarrer cette super saison, à vendredi 25.
Bon, évidemment, il y a des émissions qui ont des experts, des spécialistes, des consultants. Et nous, on a un oracle. On a un oracle qui arrive enfin à la demande générale de nombreux auditeurs. C'est le professeur Lordon. Le voilà, il est devant nous. Il est dans votre poste.
Tout est bon dans le professeur Lordon. C'est comme dans le cochon. Ça a commencé avec la crise des subprimes, donc la dette immobilière des ménages les moins solvables, les plus fragiles, etc. Or, il y a toute une série d'autres dettes qui vont arriver par convoi et se fracasser dans le bilan des banques, mais à partir de 2010, 2011, etc. Il faut donner quelques chiffres tout de même, hein, quand même, juste pour avoir, pour que les gens aient des repères et puissent faire des comparaisons. Le taux de rémunération normal du capital dans une économie. Mais dixit, la théorie économique la plus standard, je veux dire la moins folle dingue, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est ? C'est quelques pourcents, 3-4%. Vous rajoutez une petite prime de risque, parce que quand même, hein, voilà, bon, on rajoute de 3% supplémentaires. Tout ça nous fait dans les 7-8% à tout casser. C'est ça la rémunération normale du capital. Les grandes entreprises industrielles du CAC 40, et je parle des entreprises industrielles seulement, hein, je réserve la finance pour la bonne bouche, sortent des taux de rendement de leurs capitaux propres, qu'on appelle le ROE en termes techniques, comme Return on Equity, des taux de rendement des capitaux propres qui sont communément supérieurs à 15% et parfois même au-delà de 20%. Mais ceci n'est rien en comparaison de ce qui se mijote dans la tambouille de la finance. Les départements dits de banque d'investissement, où se concentrent toutes les activités de marché, crachent communément des taux de rendement des capitaux propres qui sont de l'ordre de 40%, et parfois même bien davantage. Donc vous voyez l'écart abyssal entre la rémunération normale du capital, taux d'intérêt plus prime de risque, 7-8%, et ce que crache la finance de marché, 40%. Mais c'est un petit paradis qu'ils se battront jusqu'à la dernière goutte de sang pour préserver. la confusion des élites politiques et financières a atteint un degré tel qu'il y a quand même quelques raisons d'être pessimiste à propos de ce qui va sortir du pipeline. Je veux dire, l'audace des projets qui sont sur la table pour l'instant, quand même, a pas de quoi nous faire tomber de notre siège.
Le monde connaît la crise la plus grave depuis 1929.
Nicolas Sarkozy.
Cette crise a été d'une violence inouïe parce qu'elle a été financière d'abord.
Pittsburgh.
Économique ensuite.
23 septembre 2009.
Et qu'elle a menacé de tout emporter. Face à ça, il fallait bien qu'on réagisse. Au plus fort de la crise, plus rien ne tenait. Une seule chose, la signature des États. Lorsque j'ai fait ce discours de Toulon, j'ai dit aux Français que je ne leur mentirais pas, qu'on allait s'en sortir et qu'il fallait se battre pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Nous y sommes, c'est le G20. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu la crise? Il y a eu la crise parce que le capitalisme est devenu fou, qu'on pouvait y faire n'importe quoi, que des organisations, les hedge funds, des gens, des pays, ont conduit une stratégie de la dette sans limite et de la spéculation sans limite.
Mais aujourd'hui, tout recommence comme avant.
Pardon de le dire. Enfin, si vous permettez, c'est pas tout à fait exact. À Londres, la France s'est battue pour que les paradis fiscaux, le secret bancaire, la fraude organisée, ça soit terminé. Et à Pittsburgh, l'un des enjeux, c'est que dès le premier trimestre de l'année prochaine, des sanctions soient appliquées sur des places, sur des pays qui ne respecteraient pas les règles en la matière.
C'est là-bas si j'y suis avec Frédéric Lordon, le bon côté du doigt.
Flight number 2, arriving from New York.
Le retour des profits rime avec le retour des bonus. Chez BNP Paribas, la crise semble être dans le rétroviseur.
France 24.
Au deuxième trimestre, la banque française a enregistré un bénéfice net de 1,6 milliard d'euros.
5 août 2009.
Dans le même temps, elle annonce 1 milliard d'euros de provisions au titre des bonus de ses salariés pour 2009. Pour étouffer la polémique naissante, le directeur général de BNP, Baudouin Pro, assure que sa banque respecte toutes les règles établies par le G20 au printemps dernier sur l'encadrement des bonus. Problème, BNP a reçu 5 milliards d'euros d'aide de l'État pendant la crise. Pour les observateurs, BNP Paribas ne fait que respecter les règles inchangées de la finance. BNP ferait presque pâle figure face à ses concurrents américains. Aux États-Unis, les grandes banques ont distribué 33 milliards de dollars de bonus à leurs traders en 2008. Malgré la crise, pas question de perdre les bonnes vieilles habitudes.
Alors, qui est responsable de tout ça? Parce que au cours de l'été, soudain, on a vu qu'est-ce que ça veut dire. Les traders vont recevoir des bonus comme si de rien n'était. C'est-à-dire, on s'est beaucoup indigné. On s'est aussi beaucoup intéressé, vous nous en parlerez, des paradis fiscaux. Mmh. Enfin, les mesures à prendre, si on écoute un peu la doxa, la rumeur, il suffirait de se débarrasser de ces traders ou de réduire ou de maîtriser leur bonus et puis de maîtriser aussi les paradis fiscaux. Enfin, bref, d'éliminer un certain nombre de dérives. Hein. Voilà, le président de la République, l'an passé, a fait ce fameux discours à Toulon, suivi par tous les commentateurs économiques, vos confrères, et il s'agissait d'effectivement cet argent fou, cette finance folle, enfin ces dérives, on peut plus, quoi. Voilà. Alors on nous dit, voilà, c'est ça les dérives. Les dérives, c'est les bonus, c'est les paradis fiscaux, et si on arrivait, peut-être que le G20, là, celui-là, va peut-être nous permettre d'annuler de lutter contre ces dérives, eh bien, ça s'arrangera.
Oui, c'est évident. Bon, là c'est ça qui est un peu tragique, hein, dans cette histoire. Parce que lorsqu'on regarde les discours gouvernementaux, qui sont tenus depuis 2 ans, ça, je veux dire, ça commence avec le discours de Toulon, enfin, mais dès 2007, Sarkozy nous avait fait le coup, enfin, ça oscille entre l'insuffisant et le risible. Alors, le risible, au moins on rit, c'est-à-dire qu'on pleure pas, hein. Donc, le risible, c'est ces appels à la moralisation du capitalisme. Bon, c'était toujours étonnant, le canard à la tête coupée, mais il continue de courir, c'est invraisemblable. Alors, moi, la moralisation du capitalisme, je ne sais pas quoi dire, c'est tellement bête, ce truc. Hein, c'est tellement bête. On cherche le degré de métaphore adéquate pour exprimer toute cette bêtise. Alors, moi, je ne sais pas. C'est comme la moralisation du capitalisme, c'est comme quelqu'un se promène dans la jungle et croise par inadvertance un tigre qui a visiblement très faim. Et pour le dissuader de le croquer, il ne trouve rien d'autre à faire que lui dire un truc du genre, je sais pas, kiki, pas mordre, sage kiki, pas mordre. Bon, alors, ben, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que c'est idiot. Bon, voilà, il est dans la nature du tigre de mordre et de bouffer tant qu'il ne rencontre pas une force plus puissante et opposée à la sienne qu'il en interdise. Genre, je suis sur le dos d'un éléphant et j'ai un gros fusil. Eh bien, de la même manière, il est dans la nature de la finance, en univers capitaliste, de rafler tous les profits qu'elle peut, tant qu'elle ne rencontre pas des contraintes dures qui le lui interdisent. Bon, question, où sont les contraintes dans le cadre régulateur actuel de la finance ? Réponse, nulle part. Question subsidiaire, où seraient, ou bien où seront, les contraintes dans le nouveau modèle régulateur que nous concocte le G20 ? Réponse, même réponse que précédemment. Ah zut ! Alors pourquoi ? Eh bien parce que le cadre qu'est en train d'élaborer le G20, à un pouillème près, ne modifie pas qualitativement le cadre ancien. Et alors moi, j'aime bien cette métaphore du cadre, elle est un peu sommaire, mais je la trouve convenablement éclairante. Parce qu'à mon avis, c'est ça qui fait la grande ligne de partage actuellement. Hein ? Il y a ceux qui veulent préserver le cadre, et continuer à travailler dans le cadre, c'est-à-dire rafistoler le cadre. Et de l'autre côté, il y a ceux qui veulent sortir du cadre et changer le cadre. Alors ça, là, et alors évidemment, inutile de se demander où se situe le G20 en cette matière. Poser la question, c'est y répondre. Et je dirais même plus, il est inutile de se poser la question de savoir où se situe le G20 unanimement. Et là, j'en viens à ces histoires de paradis fiscaux et de bonus. Parce que le commentariat éditorialiste est en train de nous vendre une fable, mais alors un conte pour enfants, qui est la légende de l'affrontement titanesque entre deux visions du monde, avec, à ma droite, la vision libérale anglo-saxonne, Obama-Gordon Brown, et à ma gauche, la vision régulatrice européenne continentale, le divin Sarkozy, un petit peu aidé par Angela Merkel. Bon. Et le G20 s'annonce comme un combat de géants. Sarkozy est prêt à tout, il claquera la porte, peut-être il renversera sa chaise, je sais pas. Je dis que ceci est une fable. Alors pourquoi ? J'en veux, sinon pour preuve, du moins pour indice, cette obstination à pousser sur le devant de la scène et à polariser tout le débat sur des questions dont je dis qu'elles sont périphériques, qu'elles sont opportunément montées en mayonnaise pour mieux nous jouer la comédie de l'affrontement, et pour mieux faire passer par en dessous une convergence, alors bien réelle, mais inavouable, sur les vrais enjeux fondamentaux. Alors, quelles sont ces deux questions autour duquel on fait grand bruit alors qu'elles sont secondaires et subalternes ? Ce sont les questions des paradis fiscaux et des bonus. Alors là, à ce moment-là, j'imagine assez volontiers qu'il peut y avoir quelques gaspes au bout du fil, parce que les gens qui entendent ça peuvent se dire légitimement « mais enfin, ils débloquent, machin ». Je veux dire, les paradis fiscaux, c'est important tout de même. Je veux dire, il y a des gens comme Denis Robert qui se sont tués la santé sur des trucs pareils. Bon. Et les bonus aussi. Je veux dire, il n'y a pas de quoi être fâché tout rouge avec les bonus, mais si, tout de même, un peu. Bon. Alors, quand je dis que c'est des questions périphériques, j'en rajoute un peu pour le plaisir de la provocation, mais aussi pour tordre le bâton dans l'autre sens. Ma vraie position, ma position médiane, ça serait de dire que ce sont des questions d'une incontestable dignité en soi, mais pourvu qu'on les situe dans leur registre adéquat. Ce sont des questions politique. Ce sont des questions qui ont à voir avec des enjeux de justice sociale, d'inégalité, etc. Mais pour ce qui est de comprendre la crise et la réponse qu'il faut apporter à la crise, je dis qu'on fait fausse route. Les paradis fiscaux ne sont pour rien ou presque dans la crise financière. Leur contribution est absolument marginale. Alors oui, bien sûr, ils ont apporté leur petite contribution honnête à la merdouille générale. Je veux dire, d'abord parce que les paradis fiscaux hébergent tous les hedge funds, alors qui s'y entendent comme pas deux pour répandre la vérole, et puis aussi parce qu'ils ont, c'est là qu'étaient hébergées douillettement toutes ces entités juridiques un peu bizarres qu'on appelle les SPV, les Special Purpose Vehicles, qui étaient les porteurs de tous les actifs qu'on a qualifiés d'actifs toxiques. Mais supposer qu'on ait rayé dès 2003 tous les paradis fiscaux de la surface de la Terre, nous aurions eu tout pareil la crise financière, parce que c'est ailleurs que ça se joue. C'est dans les mécanismes de la finance onshore, celle qui est sous la coupe des gouvernements, des régulateurs, etc. C'est là que ça s'est produit. Les bonus. Alors, les bonus, c'est quand même une autre affaire. Je veux dire, il faut pousser mémé dans les bégonias pour dire qu'ils y sont pour rien du tout, hein, dans la crise. Évidemment, on connaît les inconvénients de ces formules. Je veux dire, ça pousse les opérateurs au crime. Ça les incite à prendre des paris qui sont grassement rémunérés lorsqu'ils sont gagnants et qui ne sont pas sanctionnés lorsqu'ils sont perdants. Donc oui, les bonus ont eu un rôle dans la crise. Mais s'imaginer qu'ils ont été seuls en cause et que si on réglait le problème des bonus, on en aurait fini avec les problèmes de la finance, c'est vraiment commettre une grave erreur. Donc c'est pas de ce côté qu'il faut s'orienter en priorité. Et bien sûr, ce qu'on pousse sur le devant de la scène, à grand spectacle et à grand son de trompe, ce sont ces deux questions. Comme toujours, pour ne pas parler du reste.
Il est 9h ce lundi 19 avril, une journée importante pour Martin Blanchin, puisque c'est aujourd'hui que commence son nouveau travail. Il a été embauché comme responsable marketing Europe de Pinkel Working, une grosse société de consulting en flux financier. Martin Blanchin est un cadre de très haut niveau. Son poste précédent était directeur des ventes Asie chez Winkel & Parkel, une société de consulting en business leading. C'est le cabinet de recruiting Things and Stuff qui l'a chassé chez Winkel & Parkel et l'a convaincu d'aller chez Pinkel Working. À la clé, un salaire de 150 000 euros annuels et une indemnité de 300 000 euros si son contrat de 3 ans est rompu avant son terme. Le Golden Parachute. Il est 9h10, Martin Blanchin est au travail. Le manager de Pinkel Working arrive, il lui souhaite la bienvenue et lui remet sa prime de début de contrat, 250 000 euros, le Golden Hello. Un avantage négocié par le cabinet de recruiting est nécessaire à la venue de Martin. 11h, premier appel pour le nouveau responsable marketing Europe de Pinkel Working. Au téléphone, c'est le cabinet de recruiting Boops & Tits qui lui annonce que Wanking & Parking, une grosse société de consulting en consulting, veut le chasser. À la clé, un salaire de 200 000 euros, Martin est indifférent à la proposition. 14h, la proposition de salaire est maintenant de 300 000 euros, le Golden Hello de 350 000 euros. Martin juge le montant du Golden Parachute encore un peu faible. 16h, les choses avancent bien. Wanking & Parking et Martin sont tombés d'accord sur les montants du salaire, du Golden Parachute et du Golden Hello. 18h, le manager de Pinkel Working remet à Martin Blanchin son indemnité de rupture de contrat avant terme de 300 000 euros, le Golden Parachute. 18h30, Martin Blanchin décide de rentrer chez lui. En chemin, il croise Michel Filtre, un ouvrier de Pinkel Working, qui vient d'être licencié et reçoit son golden coup de pied dans le cul. Martin Blanchin doit se coucher tôt. Demain, il a une dure journée. Il doit aller chercher un golden hello de 350 000 euros.
À Londres, l'industrie du luxe ne s'est quasiment jamais aussi bien portée, car les bonus sont de retour.
TF1, 21 septembre 2009.
Pour acheter la dernière Rolls-Royce, il y a une liste d'attente d'au moins un an, et le marché des maisons de plus de 10 millions d'euros est reparti à la hausse. Quant aux Golden Boys, ils ont retrouvé toute leur arrogance.
Surtout que les gouvernements ne se mêlent pas de nos affaires, ça ne les regarde pas. Qu'ils taxent les banques, mais pas nous, les banquiers.
Au G20, Frédéric Lordon, là, dans ce G20, on voit notre président de la République qui va s'illustrer, comme il sait le faire, avec cette fougue, cette détermination de lutter contre le...
Il va casser une chaise. Il va casser une chaise.
Alors, ce président, il est de droite. Mmh. Est-ce que la gauche ferait mieux en la matière ?
Ah bah, alors là, il faut... On peut relever les compteurs, hein. Au compteur de l'histoire, la gauche a fait pire que la droite en matière de libéralisation financière. C'est-à-dire que c'est le socialisme de gouvernement qui a fait progresser par étapes successives la déréglementation des marchés de capitaux et tout ce qui s'en est suivi. Donc de ce point de vue, je serais partisan là aussi de modérer l'enthousiasme. Et quand je dis modérer l'enthousiasme, évidemment, il faut, je ne sais pas quoi dire, pour éviter que nous sombrions dans la dépression collective la plus noire. Parce que si on regarde sur l'échiquier politique, les disons les partis en situation d'arriver au gouvernement, ceux qui sont à même de tenir un discours véritablement nouveau, puis pas seulement de tenir un discours, je veux dire surtout de joindre le geste à la parole, alors c'est le grand désert. C'est ça le vrai problème, parce que c'est pas le tout d'avoir des idées. Donc moi j'essaye de faire mon boulot dans mon coin, je peine pour avoir des idées, pour en mettre deux l'une au bout de l'autre, etc. Bon, de temps en temps j'y arrive, elles sont imparfaites, elles sont bancales, tout ce qu'on veut. Mais en les supposant vraiment magnifiquement polies, serties, etc., comment rentrerait-elle dans les faits ? Mais là, je veux dire, ça, c'est poser la question des conditions de possibilité politique de mise en œuvre de ces propositions. Et on voit bien que c'est une autre paire de manches. Bon, et il n'y a pas lieu de s'en étonner d'ailleurs. Il faut regarder au-delà du cercle des acteurs politiques à proprement parler. Je veux dire, un ordre de domination ne se rend pas spontanément. Voilà. Hein ? Il ne décide pas comme ça un beau jour de s'autodissoudre dans l'alcool. Donc, l'événement qui verrait les dominants se rassembler et s'adresser à la société pour lui tenir ce discours. Voilà. Et ben pendant 3 décennies, on a fait bombance et on a bien profité. Bon, allez, on trouve que c'est assez maintenant. On fait une dernière grosse fête et on vous rend les clés.
Voilà, puis maintenant on va vivre dans la frugalité.
Et voilà. Alors cet événement-là, je le dis, est très improbable. Bon,
c'est un appel à la révolution. Je sens que ça va mal finir.
J'ai parlé du privilège de profitabilité de la finance, de la vie à millions, etc. Je veux dire, encore une fois, c'est pour dire qu'il y a une forme de vie qui s'est constituée là et qui ne se laissera pas détruire sans résister avec la dernière énergie. C'est un combat frontal entre la société et sa minorité parasite. Et le problème, c'est que tous les mécanismes institutionnels et politiques travaille à la préservation et la perpétuation de cette minorité parasite. Tous les mécanismes de cette chose qu'on appelle par charité ou bien par habitude, la démocratie qui n'est que la démocratie représentative et qui vaudrait mieux en fait appeler l'oligarchie. Et donc, c'est ça qui me rend très pessimiste, si vous voulez, c'est que la transition à froid qui transformerait en profondeur les structures du capitalisme présent, cette transition à froid est un événement dont la probabilité me semble absolument ridicule. Alors, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, je cherche et je ne vois que 2 trajectoires, ou 2 scénarios, si vous voulez. Alors, premier scénario, c'est ce qu'on pourrait appeler le scénario du crapaud. Alors, vous connaissez l'histoire du crapaud. On met un crapaud dans une casserole d'eau froide, et puis on met le feu dessous, et on monte gentiment la température. Et ce con de crapaud, il sent rien, jusqu'à l'ébullition. Il ne fait pas un mouvement pour sortir de la casserole. Le crapaud finit par mourir ébouillanté, et quand on regarde ce qui se passe depuis 3 décennies, c'est le corps social qui joue le rôle du crapaud. Et c'est ce scénario qui a ma... Enfin, je veux dire, en termes de probabilité, hein, qui a ma préférence, malheureusement. Je veux dire, qu'est-ce qui fait tenir la société c'est les vraies régulations sociales, c'est quoi? C'est le Lexomil, c'est TF1 et c'est la flicaille. Je veux dire, pour dire les choses vraiment à l'os.
Brutalement,
ouais.
Oui.
Alors, le scénario alternatif, qu'est-ce que c'est si on renonce à l'existence de crapaud? C'est le scénario de la soupape. Bon, alors, c'est celle qui saute quand la pression dans la marmite est trop forte. Bon. Et alors là, il ne faut pas s'étonner que dans ce scénario-là, il puisse y avoir de la casse, je veux dire. Ça ne serait que le reflet, la conséquence de la faillite généralisée de tous les médiateurs. Les médiateurs politiques, les médiateurs médiatiques et les médiateurs syndicaux. Et je le dis avec une grande tristesse, parce que des 3 faillites, je veux dire, c'est celle-là qui est la plus rageante. Vous comprenez ? On en revient à la question que vous posiez au tout début. Qu'est-ce qui se passe au début de l'hiver 2009 ? Tout le monde est très très mécontent. Et qu'est-ce qu'on fait pour éponger ce mécontentement ? On marche. Les syndicats, au sens propre et au sens figuré, nous ont fait marcher. Alors oui, on a arpenté par millions entre République et Nation. C'est très bien. J'ai bien peur que, intentionnellement ou pas, ça je ne le sais pas, les syndicats étaient dans cette affaire les complices objectifs de Sarkozy. Je veux dire, il y avait une colère dont le débondement était sur le point de s'opérer et qui a été très habilement contenu, et le soufflet après est complètement retombé. Alors, oui, devant la fermeture de toutes les solutions politiques réglées, institutionnelles, démocratiques avec les guillemets, on finit par se dire qu'il ne reste plus que l'issue du gros gros coup de colère. Le gros gros coup de colère populaire. Mais alors... pas content, fâché tout rouge. Et alors, évidemment, ça, j'ose à peine le dire. Et j'essaye de faire la part entre ce que j'appelle de mes voeux et ce qui relève d'un diagnostic simplement analytique. Mais j'ose à peine le dire. Ceci s'appelle un soulèvement. Ça s'appelle un soulèvement. Dans l'eau.
Ainsi donc, j'irai plus rien à faire qu'à mettre ta clé sous la porte. Ces châteaux sombres, déserts ou juste nos illusions mortes. Vite et serait l'inventaire de ces chambres abandonnées. Au lire couvert poussière, au parquet noir sans sécher. Sur les carreaux des fenêtres, on pourrait écrire à la craie. Tout de même fera disparaître des choses qu'on a cru vraies. Dans ce monde à la dérive, pareil aux autres animaux. Nous n'aurions d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Ainsi donc, contre la faim et la haine, contre le froid, la cruauté, la longue quête incertaine. Pour affirmer sa dignité, il nous faudrait tourner de la bataille surhumaine. Que depuis l'âge des cavernes, l'homme à lui-même s'est livré. Tirez pas sur le pianiste qui joue d'un seul doigt de la main. Vous avez déchiffré trop vite la musique d'être humain. Dans ce monde à la dérive, son chant demeure et dit tout haut qu'il y a d'autres choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo.
Frédéric Lordon, là on a compris. Les auditeurs prennent des notes. Et donc, le monde va changer dans les...
Oh, bah, dans le quart d'heure, ça me paraît évident.
Dans la semaine. Mais quand même, ce krach financier, il a eu pour effet une certaine récession économique. Il y a un lien entre ce krach financier et l'économie. Et puis, il y a un lien extrêmement violent entre cette théologie du marché, cette théologie du profit, et puis la gestion des entreprises.
Oui.
On le voit actuellement avec la crise chez France Télécom, privatisée en grande partie, et puis avec la Poste qui a l'air de dériver elle aussi vers la privatisation. Est-ce qu'on peut évoquer ça ?
Bah oui, on peut, je dirais même qu'on doit. C'est une manière de revenir sur le thème qu'on a abordé tout à l'heure, c'est-à-dire le thème de la crise financière symptôme, la crise financière épiphénomène d'une crise plus profonde, qui est une crise structurelle, crise de la configuration présente du capitalisme en tant qu'elle donne lieu, qu'elle soutient ce que j'appelle, pour faire simple, alors il y a des appellations analytiquement plus rigoureuses et plus précises, mais pour faire simple, un capitalisme de basse pression salariale. Et ce capitalisme de basse pression salariale, il est structuré autour de deux grandes contraintes structurelles. La première contrainte, c'est la contrainte actionnariale. La contrainte de dégager, faites aux entreprises de dégager toujours plus de rentabilité à servir l'actionnaire. Et la deuxième contrainte, c'est la contrainte concurrentielle. Bon. On voit bien que la synergie de ces deux contraintes opère un effet de tenaille absolument mortel qui voue le salaire à devenir une variable d'ajustement envoyée dans une dynamique de compression indéfinie. Bon. Alors ça, c'est, je dirais, l'appréciation quantitative des choses. On pourrait prendre cette affaire de contrainte actionnariale, puisque, je veux dire, enfin, c'est exactement de ça dont il va être question lorsqu'on va parler de France Télécom et qu'on va évoquer le destin de la Poste. Plus qualitativement parlant, il faut se demander pourquoi la symbiose de la contrainte actionnariale et de la contrainte concurrentielle est à ce point toxique. Car il faut le dire, je veux dire, c'est le plongement dans un univers ultra-concurrentiel qui exalte, en quelque sorte, qui démultiplie les effets nuisances de la contrainte actionnariale. Sous l'injonction actionnariale de dégager sans fin de la rentabilité financière, la concurrence a pour effet de placer tous les agents en position d'avoir à défendre des intérêts vitaux. Et ça, de haut en bas de la pyramide hiérarchique. Parce que le paradoxe, d'une certaine manière, c'est que ça commence avec le patron lui-même. N'est-ce pas ? Le patron qui n'est plus du tout le seul maître à bord après Dieu dans l'entreprise. Maintenant, il a sur le dos les actionnaires et les marchés financiers.
Et la concurrence aussi.
Et la concurrence.
C'est deux arguments. Le gars va dire, mais attendez, il y a une telle concurrence qu'on est obligé de se conduire comme ça. Et puis, il y a les actionnaires qui sont derrière nous et on est obligé de se conduire comme ça.
Et alors, ce qui est tragique, c'est que cet argument ne peut pas être balayé du revers de la main, car il est objectivement bien fondé. Qu'il soit instrumenté de la plus cynique et de la plus brutale des manières, n'empêche pas que ces contraintes-là sont bel et bien là. Et alors, pour le patron, c'est assez terrible, parce que s'il ne donne pas satisfaction, il sautera. Et il sautera selon l'enchaînement fatal suivant, sous-performance, baisse du cours de l'action, menace d'OPA, débarquement de toute l'équipe dirigeante. Et même avant l'OPA, si par hasard il y avait un petit putsch de conseil d'administration, on se débarrasserait du patron mal performant dans de meilleurs délais. Or, le patron ne veut qu'une chose, il veut persévérer dans son être patronal. Parce que c'est toute sa vie. Je veux dire, l'ivresse de conduire une grande entreprise mondialisée, le salaire à millions, les stock options, les retraites chapeaux, c'est son existence même de patron, c'est ce qui fait sa joie d'individu. Alors, je veux dire, il ne se laissera pas déposséder de ça sans rien faire.
Ok, allez, madame la présidente, on est prêts.
Madame la présidente, oui, alors on est d'accord alors, hein. Vous vous adressez directement à vos employés, ce sera diffusé sur un écran géant, hein. Vous allez voir, on a fait quelque chose de très bien, de très chic, donc de la sincérité, de la sincérité.
Oui, donc j'essaie d'être moi-même, d'être sincère.
Voilà, on peut pas mieux dire,
j'essaie d'être crédible.
J'essaie d'être crédible, quoi.
Voilà,
ok, d'accord.
Super, je vous embrasse.
Ok.
Bon, on y va ?
Action !
Ok. Bonsoir à tous. L'énorme succès de nos montres calculettes a permis de multiplier notre chiffre d'affaires par 38,2. C'est pourquoi les trois quarts de nos effectifs seront licenciés avant Noël. Désolé.
Coupé ! Wow, génial !
J'étais bien ?
Génial, super classe ! Bravo, extraordinaire ! C'est super, vachement bien ! Intentionnel !
C'était vraiment très intéressant.
Et c'est là que je dis que le patron est ce que j'appelle le maillon faible paradoxal. C'est-à-dire, d'un côté, il est le plus vulnérable, le plus sensible à l'injonction actionnariale, puisque c'est lui qui la prend en pleine poire, hein, au tout premier degré. Mais d'un autre côté, il est aussi celui qui conserve le pouvoir dans l'entreprise, et notamment le pouvoir de mettre toute son organisation sous tension pour lui faire atteindre les objectifs au travers duquel passe sa persévérance dans l'être patronal. Et donc, l'injonction indéfinie de productivité, qui sera destinée à être servie à l'actionnaire sous la forme de la rentabilité financière, hein, cette injonction descend en cascade tous les échelons de l'entreprise sans la moindre perte en ligne, et jusque tout en bas, et même au-delà de tout en bas, puisque cette injonction prolonge ses effets du côté de la sous-traitance et du côté des sous-traitants, etc. De ce point de vue, chaque fois que je parle de ça, je ne peux pas m'empêcher de citer ce film qui est vraiment très bien foutu de Gilles Perret, qui s'appelle « Ma mondialisation » et qui montre exactement ça. Et alors, c'est très intéressant le cas des sous-traitants, hein, parce qu'eux, ils ne sont pas exposés directement à la contrainte actionnariale. Ils ne sont pas dans le CAC 40, ils n'ont pas les fonds de pension immédiatement sur le dos, etc. Et pour autant, ils la subissent tout aussi directement, mais par le canal de la concurrence. C'est toujours la même chose. Et donc je dis qu'on a là une structure tout à fait générale, rassemblée dans l'injonction suivante, qui est « tu performes ou tu sautes ». Et on retrouve ça absolument à toutes les échelles. On retrouve ça dans les rapports actionnaire-manager, dans les rapports donneur d'ordre sous-traitant, et évidemment dans les rapports entre supérieurs et subordonnés au sein de l'entreprise. Et ceci à tous les niveaux.
Sachant que les subordonnés sont actionnaires, en l'occurrence, très souvent chez France Télécom.
Oui, mais bien sûr. Mais ça, c'est toute l'arnaque de l'actionnariat salarié qui procède de la recette du pâté d'alouette. C'est-à-dire une alouette d'actionnariat pour un cheval de salariat. Bien sûr, les salariés rattrapent quelques pouillèmes sur leur plus-value en bourse, mais enfin, ils savent quand même de quoi est faite essentiellement leur existence. Elle est faite du revenu salarial que leur procure leur travail, et surtout, elle est faite qualitativement des conditions de vie professionnelle qu'ils trouvent dans leurs emplois. Et c'est précisément ça qui est en question. Puisque cette structure dont je parle, hein, elle procède du mécanisme central de l'implication maximale des individus par mise en danger de leurs intérêts vitaux. Genre, encore une fois, c'est ça vraiment la chose. On pense qu'on a là le magnifique aiguillon de la concurrence. La vérité, c'est que c'est un poison violent. D'abord parce que la plupart du temps, l'excès de concurrence fait faire n'importe quoi aux gens, et que surtout, ça le leur fait faire avec la plus extrême violence. C'est pas difficile, et il faut pas s'en étonner. Lorsque les individus sont le dos au mur, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir, éventuellement de la façon la plus désordonnée qui soit, pour en sortir. Et c'est une terrible violence qui déshumanise les gens. Et une violence d'ailleurs qu'ils vivent assez souvent dans l'ambivalence, puisqu'ils en sont à la fois victimes et bourreaux. Cette violence, ils la subissent et ils l'agissent. Bon, alors, il n'y a que ceux qui sont en bout de course, en butée hiérarchique. Ce qui ne veut pas forcément dire que les ouvriers, je veux dire un ingénieur de projet, par exemple, ou un cadre, hein, technico-commercial, qui n'a personne sous ses ordres, lui, il est ce que j'appelle en bout de course hiérarchique, et il n'en est pas moins cadre. Bon, les gens qui n'ont personne en dessous d'eux, À qui passer cette violence-là? Eh bien, ils la prennent tout pour eux. Et puis, à la fin, dans certains cas, ils se jettent par la fenêtre ou ils se foutent un couteau dans le ventre. Alors, c'est ça qui est dramatique. Je veux dire, c'est que l'intensité de cette double contrainte absolument toxique, hein, de la rentabilité actionnariale et de la concurrence répand partout dans le tissu économique une épouvantable violence qui s'empare de littéralement tout le monde. Donc il faut redéployer toute cette chaîne, hein, qui va de l'extrémité actionnariale jusqu'à l'autre extrémité salariale, et il faut la voir bien sous les yeux dans une vision synoptique pour pouvoir ensuite ressaisir, comme par un court-circuit, le lien qui mène de l'actionnaire au salarié suicidé.
Sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un, la plus dangereuse, c'est le coup de fusil. La plus onéreuse, c'est le coup de canon. Ça demande une équipe entraînée au bruit. Et y a toujours la corde dite pendaison. Pour le nœud coulant, faut avoir le don. Sûr que la noyade attire les moroses, mais pas garanti parce que l'eau réveille. Il y a le bon vieux poison, mais là, faut la dose. Pas assez, tu dors, un peu trop, tu veilles. Le gaz est plus propre, pas de commentaire, mais à tout instant, gare au courant d'air. Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant l'argent. Le rasoir, ma foi, cette saloperie, assez fanatique parce que c'est tranchant. La hache, le couteau et la scie aussi, mais c'est un domaine bourré d'accidents. Très peu efficace et la collision, ça brise une face, laisse des lésions. Pour mourir de soif, faut la volonté, le dégoût de l'eau, surtout la santé. Non, j'y tiens. La meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. Entre mourir d'amour ou bien mourir de rire, la plus achalandée, c'est difficile à dire. Les deux finissent en spasme, en soubresaut, en transe, mais les deux sont jolis. Le rire toujours comique et l'autre romantique. La chaise électrique, c'est très indécent. Sauter dans le vide, c'est pas toujours prudent. Étrangler quelqu'un, c'est perdre ses sens. Le trancher, c'est pire, c'est le sens-dessous. Non, vraiment, je reviens à mon sentiment premier. L'infaillible façon de tuer un homme, c'est de le payer pour être chômeur. Et puis c'est gai dans une ville, ça fait des morts qui marchent.
C'est Félix Leclerc, Monsieur le Président. Non, je dis ça parce que je sais ce qui se passe actuellement, là, des renseignements. Le Président de la République française, à Pittsburgh, est en train d'écouter la basse, et j'y suis. Il se demande qui est le chanteur qui vient de chanter. C'est Félix Leclerc, Monsieur le Président. Et puis alors, c'est Frédéric Lordon, voilà, qui analyse un peu la situation. Et voilà, vous pourriez peut-être... ça peut-être modifier un petit peu ce que vous allez dire au cours de ce G20, non? Bon, alors on continue avec Lordon. Solution.
Alors là, moi, la solution, j'ai rendu ma copie il y a un certain temps, mais alors je m'attendais pas à être accueilli par des acclamations. Hein, valait mieux pas, sinon j'aurais été déçu. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai proposé un truc auquel j'ai donné le nom de slam. Alors moi, slam, j'aimais bien parce que d'abord c'est le bruit d'une porte qu'on claque au nez d'un fâcheux. Alors là, le fâcheux, on le connaît, hein, c'est le capital actionnarial. Alors, c'est compliqué, hein, le capital actionnarial, parce que le drame, c'est que le capital actionnarial se nourrit des épargnes des salariés, ce qui est une espèce de tragédie. C'est l'épargne des salariés, hein, qui s'investit dans les actions, etc. Donc, la perversité ultime de ce système, c'est que les salariés s'asservissent à leurs propres frais. Mais bon, il y aurait à dire là-dessus. Et SLAM, c'était aussi un acronyme qui voulait dire Shareholder Limited Authorized Margin, ce qui, en bon français, veut dire marge actionnariale limite autorisée. Et le but de la manœuvre, c'est de définir, pour le capital actionnarial, un taux de rentabilité maximal, inspiré d'ailleurs de ce que je disais sur ce que peut être et ce que doit être le taux considéré comme normal de rémunération du capital, c'est-à-dire revenir dans l'orbite du taux d'intérêt à une prime de risque près. Donc, quelques pourcents seulement, et pas les 20% des entreprises du CAC 40. Définir un taux de rentabilité actionnariale maximale au-dessus duquel un prélèvement fiscal écrête et prend tout. Alors, c'est pas une mesure fiscale en soi. C'est pas un truc pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État.
Et c'est une façon de désarmer les marchés financiers.
C'est exactement ça. C'est une façon de cisailler à la racine toutes les incitations du capital actionnarial à pressurer toujours davantage et sans limite les entreprises, puisque le mot d'ordre implicite qui est porté par le SLAM, c'est « si vous continuez de serrer les croupes, peut-être vous ferez dégorger l'entreprise un peu plus, mais on vous prendra tout ». Donc c'est même pas la peine d'y penser. Renoncez simplement. Alors, c'est une mesure qui a... Il y a plein d'objections qui naissent immédiatement contre cette mesure. Vous allez faire partir les capitaux, vous allez faire partir les entreprises, etc. J'ai des objections aux objections. Bon, là aussi, je renvoie à des choses écrites. Hein. Dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, il y a une annexe, il y a un chapitre sur le SLAM, et il y a une annexe qui est consacrée à la présentation de ces objections aux objections. Bon, voilà. Donc, mais c'est un débat qui est en cours. Je veux dire, j'aimais l'idée, elle est sans doute imparfaite, elle nécessite du travail, qu'on le fasse et qu'on s'y mette. Voilà, c'est tout.
Et concernant la concurrence.
Alors, concernant la concurrence...
Comment on fait pour limiter la concurrence? Là, on en revient au G20, on en revient quoi? À l'OMC? À qui on fait confiance? Ou est-ce qu'on fait du protectionnisme? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, moi, je suis...
À l'échelle mondiale, ouais. À l'échelle régionale?
Alors, moi, je ne suis pas un expert en commerce international, et je n'ai pris la parole sur ce sujet que pour signaler au moins une chose qui est une espèce de piège de langage, pour ne pas dire de piège logique, qui tourne autour de ce débat sur le protectionnisme, dont on fait quand même le motif de diabolisation numéro un, je veux dire, mais enfin, très honnêtement, hein, dans le débat public, pire que protectionniste, il y a pédophile, quoi. Je veux dire, enfin, vraiment, immédiatement, enfin, moi j'ai le souvenir d'avoir entendu, je ne sais plus qui, ça devait être Emmanuel Todd, hein, ou... Je ne sais plus si c'était la matinale d'Inter ou de France Culture. Et bon, on lui dit, mais quand même, vous n'êtes pas protectionniste, non? Je veux dire, c'est quand même le comble de l'horreur. Et là contre, je voudrais faire observer une chose tout à fait élémentaire. C'est que ce débat sur les protectionnismes, qui tourne autour de la notion de concurrence libre et non faussée, celle des traités européens, la concurrence non distordue.
Nous y revoilà.
À ceci d'extraordinaire qu'en se focalisant sur les distorsions proprement commerciales, les distorsions dans les marchés, elle occulte systématiquement toutes les distorsions d'autre nature, comme les distorsions structurelles, socioproductives, monétaires, qui constituent toutes les protections de fait. Je demande... lorsque la livre est dévaluée en quelques semaines de 30% par rapport à l'euro. Est-ce que ceci n'est pas une distorsion? Lorsque le salarié chinois est payé 150 euros par mois, ou lorsque le salarié, prenons au cœur de l'Europe, l'élite salariale en Roumanie et chez Dacia est payé 300 à 400 euros par mois, est-ce que ce n'est pas une distorsion? Lorsque la Pologne refuse, et en même temps on peut la comprendre, de prendre en charge les coûts environnementaux, est-ce que ce n'est pas une distorsion? Lorsque le Vietnam refuse de prendre en charge les coûts d'un système de santé, est-ce que ce n'est pas une distorsion? Lorsque vous avez candidat, alors au cœur de l'Europe, l'Estonie, candidat à l'entrée dans l'Europe, la Macédoine, qui font leur pub institutionnelle sur CNN ou sur les chaînes boursières américaines sur le thème « L'époque est à la réduction des coûts, venez chez nous, 0% d'impôts sur les bénéfices réinvestis ». Est-ce que ce n'est pas de la distorsion? Oui, ce sont des distorsions. Et les distorsions, pour ceux qui sont du bon côté, ce sont des protections. Ma conclusion paradoxale est donc que la concurrence libre et non distordue, au sens où l'entendent les traités européens, c'est ça le protectionnisme. Dans un monde de différences, il y a nécessairement des distorsions. Les économies sont différentes, elles sont structurellement différentes. Elles sont construites autour de formes de vie politique et sociale différentes. Leurs coûts sociaux sont différents. La différence, c'est de la distorsion. Et la distorsion, c'est de fait de la protection. Donc ce débat sur le protectionnisme est une vaste connerie. Puisque à partir du moment où la grande homogénéisation finale du monde n'est pas encore réalisée, et où nous sommes dans un monde d'économie différente, nous sommes nécessairement dans un monde de fait protectionniste. Donc c'est pas la peine de s'exciter à vouloir éradiquer le protectionnisme et le protectionniste d'ailleurs comme la peste noire. Il faut assumer, regarder bien en face que nous sommes dans ce monde-là, et la seule chose intelligente qui reste à faire, c'est de négocier des contre-distorsions et des compensations. Ce qui signifie rompre avec l'agenda de l'OMC, qui est un agenda de poursuite et d'approfondissement de la libéralisation de tous les marchés jusqu'à ce qu'il reste plus une seule enclave, plus une seule protection, plus rien du tout.
En tout cas, on a passé une heure du bon côté du doigt. Parce que la devise de Frédéric Lordon, je le rappelle, c'est « montrer du doigt, c'est la certitude d'être du bon côté du doigt ». Merci Frédéric Lordon.
Ma banque est mon amie, elle s'occupe de moi. Ma banque est ma mama et je lui dois ma vie. Ma banque est mon ferment, ma terre est mon sang. Ma banque est le cordon qui guide et me nourrit. Gloire à ma banque, gloire à ma banque, gloire à toi.
Merci à tous, vous allez pouvoir réécouter tout ça. L'émission d'hier et celle d'aujourd'hui sur labas.org, la-bas.org. Et c'est ce qu'on vient d'entendre, vous pouvez le réécouter sur France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Merci à Frédéric Lordon, au professeur Lordon. Le titre de son bouquin, je le rappelle, c'est La crise de trop chez Fayard à la technique aujourd'hui. Éric Morin et Michel Bézikian, Coy Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission modeste et géniale. Agnès Lebot nous assiste et Catherine Pinto attend vos messages au répondeur de la basse justice au 01 56 40 37 37. Il est 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Stéphane Leneuf. Salut.